voilà. Bonjour à tous. Je vous remercie tout d'abord d'être venus pour écouter cette conférence sur le self-care, opportunité de croissance pour l'officine. Je vais me présenter rapidement. Je suis Sylvie Montet, donc je travaille au sein d'Open Health Company comme directeur des panels. Et en deux mots, Open Health Company, vous le connaissez peut-être sous le nom de Celtipharm. Nous avons récemment changé de nom depuis cet été. Et Open Health est aujourd'hui né du rapprochement de trois entités. Carré Castan Consultant, qui est axé et orienté Market Access. Celtipharm, que vous connaissez, qui a pour principal objectif de communiquer auprès des pharmaciens d'officine. Et également, qui est spécialiste dans le traitement et le recueil des données de santé et délivrées au sein de l'officine en temps réel. Nous avons élargi nos flux de données et notre activité grâce à Medex Group, un éditeur de logiciels qui nous permet aujourd'hui, en plus de bénéficier de l'accès à des données issues des médecins et de données patients. Les données qui vont vous être présentées au sein de cette présentation sur le self-care sont issues de notre panel d'officines qui comporte 6718 pharmacies qui sont représentatifs du parc officinal et donc qui nous permettent de recueillir lors de la délivrance à l'officine les informations en temps réel. Je vous propose dans un premier temps de faire une overview sur l'activité pharmaceutique de manière générale avec un point, donc les chiffres qui vont vous être présentés correspondent au chiffre d'affaires des officines à fin décembre. Donc comme vous pouvez le voir, après une rupture franche qui a eu lieu en 2013, hein, on a fini l'année à moins 2,8%, sur cette année 2015, les chiffres à fin décembre, on repasse la barrière des 35 milliards d'euros, 35 milliards 5, sur cette fin d'année 2015, avec une belle croissance et une belle évolution à plus 1,7%. Sachant que du coup, on retrouve sur le chiffre d'affaires global de l'officine un chiffre d'affaires qui approche et avoisine celui que nous avions en 2012. Si on regarde comment se vend-il la croissance sur l'ensemble des régions en France métropolitaine, on peut voir effectivement qu'il y a certaines disparités, même si toutes les régions sont en croissance positive, avec effectivement, on est à plus 2,6% de croissance sur les régions de l'Ouest, là où à l'Est, on est un petit peu plus en recul sur les régions de l'Est, à plus 0,6% uniquement. Le chiffre d'affaires de l'officine, donc on l'a vu, plus 1,7% à fin décembre. Bien sûr, 80% du chiffre d'affaires est réalisé par le médicament. On a au niveau des poids des différents segments au sein de l'officine quelque chose qui reste relativement stable d'une année sur l'autre. 80% généré par le médicament, 7% par tout ce qui est accessoires et dispositifs médicaux, 5% par l'hygiène et cosméto, et 4% par la diététique et les compléments alimentaires, le vétérinaire ne représentant que 0,5% du chiffre d'affaires de l'officine. Les évolutions de ces différents segments sont par contre assez disparates. On voit que le médicament reste positif, tout confondu, c'est-à-dire automédication, mais également médicaments de prescription médicale obligatoire. On est à plus 0,5%. Et on voit ici que les segments qui restent les plus dynamiques sur l'année 2015 sont la diététique et le complément alimentaire à plus 7,8% et les accessoires et les dispositifs médicaux à plus 7,3%. L'hygiène et cosméto reste un segment qui est également dynamique à plus 4,4%. Je vous propose de rentrer maintenant dans le vif du sujet, à savoir le marché du self-care. Et dans un premier temps, l'important et l'enjeu, c'est de bien comprendre la définition et ce qu'on met derrière le self-care. Donc le self-care, ça va être les produits qui sont au sein de l'officine conseillés par le pharmacien. C'est-à-dire qu'on va exclure tout ce qui est prescription médicale obligatoire et également les produits sous ordonnance, que ce soit du médicament, des dispositifs médicaux ou des compléments alimentaires. Donc on ne gardera dans le spectre du self-care que les produits qui sont délivrés sans ordonnance, donc non prescrits, et qui comportent les médicaments, automédication ou médicaments remboursables, comme le Doliprane, les dispositifs médicaux non remboursés et les compléments alimentaires. Donc le self-care, c'est les produits non prescrits, non remboursés, conseillés et vendus exclusivement par le pharmacien d'officine. Si on regarde sur ce segment du self-care qui pèse aujourd'hui 3,7 milliards, on a une très belle dynamique sur ce segment du self-care. On est à plus 6,4% sur cette fin d'année 2015, avec une très belle performance des médicaments donc non prescrits, délivrés sous conseil du pharmacien, qui pèse pour 2,2 milliards, et avec une croissance de plus 5,2%. Les deux autres segments, les compléments alimentaires et les DM, qui ont un poids plus faible, respectivement 800 millions d'euros et quasiment 700 millions d'euros, ont une très belle performance également, plus 7% pour les dispositifs médicaux et plus 9,6% pour les compléments alimentaires. Si on regarde ici la sous-segmentation au sein du marché du self-care, on voit que le principal segment du marché concerne les voies respiratoires, avec une très belle dynamique à plus 10,7%, plus 66 millions d'euros générés sur cette année 2015, suivi de près par l'antalgie, quasiment une croissance à deux chiffres également, plus 9,4% et plus 46 millions d'euros générés sur ce segment. Sur le top 6 des segments du marché du self-care, voies respiratoires, antalgie, voies digestives, dermatologie, vitamines et minéraux et circulation, il représente 65,9% du marché du self-care, soit 10,4% du chiffre d'affaires de l'officine sur 2015. Et un petit peu plus d'un tiers de la croissance est générée par les produits du self-care. Donc une très belle performance sur ces segments. Si on regarde maintenant par statut réglementaire des différents produits, on peut voir, donc on l'a vu sur les médicaments, une croissance à 5,2%. Et cette croissance est tirée par les deux principaux segments, à savoir la voie respiratoire et l'antalgie, respectivement à plus 8,4%, générant 529 millions d'euros, et plus 9,3% pour l'antalgie, qui lui avoisine les 450 millions d'euros. Sur les dispositifs médicaux, on est sur trois segments qui tirent la croissance des dispositifs médicaux sur le marché du self-care. Les voies respiratoires et l'antalgie qu'on retrouve toujours, mais également les voies digestives à plus 8%. Les compléments alimentaires, enfin, le plus petit des segments, mais avec la croissance qui est non des moindres, puisqu'on a vu qu'elle était à plus 9,6%, et avec un segment sur les voies respiratoires qui, bien qu'il soit assez petit en termes de vente valeur, 32 millions d'euros, une très très belle croissance sur ce segment, de nombreux produits qui sont apparus sur ce segment et qui ont très bien performé. On est à quasiment plus 31% sur ce sous-segment. Rentrons maintenant sur le top 10 des laboratoires sur le marché du self-care. Dans le top 10 des laboratoires, on retrouve en première position Sanofi, suivi de Boiron, Johnson & Johnson, Bayer Santé Familiale en quatrième position, BMS UPSA en cinquième, Urgo en sixième position, Copper en septième, Merck Médication Familiale en neuvième position, Arco en huitième position, et enfin, dixième acteur du top 10, Reckitt Benckiser. Sachant que ce graphique se lit de la manière suivante, donc vous avez les parts de marché sur l'axe des abscisses et l'évolution des différents laboratoires sur une année pleine et versus l'année précédente, versus 2014, en ordonnée. Ce qu'on peut voir, donc en pointillé ici le marché du self-care qui est donc à une évolution de plus 6,4% et une très belle performance et un très beau dynamisme de tous les laboratoires qui sont au-dessus de cette ligne verte, à savoir Boiron, BMS UPSA, Cooper, Urgo. Si on regarde les principales contributions à la croissance et le top 10 des contributions à la croissance sur ce marché, donc sur les ventes hors prescription, on a Boiron qui a généré plus 22,5 millions d'euros, qui correspond à peu près à 10% de la croissance générée sur ce marché, suivi de Expansions, 15,8 millions d'euros. En troisième position, BMS UPSA, 14 millions d'euros quasiment. Sanofi, 13 millions d'euros. Cinquième position, un grand bravo aussi à Pilège, qui est un pur player des compléments alimentaires, le seul dans le top 10. Plus de 10 millions d'euros en termes de croissance sur ce marché du self-care. Sixième position, donc talonné de près, Cooper, Urgo, Novartis et Genevrier, qui avoisinent les 10 millions. Et enfin, dernière position, dixième acteur, qui est un génériqueur avec Mylan et notamment avec l'ibuprofène. Si on regarde en termes de marques maintenant, le top 10 des contributions à la croissance des différentes marques du marché du self-care, on retrouve dans ce top 10 deux produits, Piasclédine en première position qui a généré plus 15,3 millions d'euros et Chondrosulf de Genevrier qui a réalisé plus 9 millions d'euros de croissance sur ce marché suite au déremboursement des ASAL. En deuxième position, une très très belle performance également d'Hartmann avec sa gamme Confiance, donc lancement d'une nouvelle gamme sur cette année 2015. Troisième position pour Boiron avec Oxyloc Oxynum. Cinquième position pour Doliprane TAMS de Sanofi qui a été lancée fin 2015 et qui arrive déjà en cinquième position avec quasiment 6 millions d'euros de croissance sur ce marché. Le retour de Fervex de BMS UPSA qui arrive en sixième position, 5,7 millions d'euros également. Toplexil avec un déremboursement de produits et un repositionnement de la gamme en OTC qui arrive en septième position. Une belle performance, on retrouve Pilège, on l'a vu tout à l'heure avec sa gamme Lactibiane et notamment une très belle pénétration de Lactibiane ATB. Prorinel en 9e position avec l'élargissement de la gamme Eucalyptus. Et enfin, Cotopad en 10e position à plus 4 millions d'euros. Sachant qu'on retrouve dans ce top 10 à la fois des marques qui commercialisent uniquement des médicaments, mais également des marques mixtes, 3 en l'occurrence dans ce top 10. Je vous propose maintenant de rentrer dans chacun des segments de ce marché du self-care. On va débuter par l'automédication. Donc, on a vu qu'il y avait les médicaments, les dispositifs médicaux et le complément alimentaire. Sur les produits d'automédication, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. On retrouve donc sur le marché de l'automédication un marché en forte progression. Donc, on l'a vu, plus 5,2 au global et une croissance qui est tirée essentiellement par l'OTC, c'est-à-dire les médicaments non remboursables, avec une croissance à plus 6,2%. Les principaux segments de ce marché de l'automédication, on retrouve les voies respiratoires, 529 millions d'euros, qui génère 41 millions d'euros de croissance sur ce marché de l'automédication, avec une évolution à plus 8,4% par rapport à l'année dernière. L'antalgie également, très belle performance, plus 38 millions d'euros de croissance sur le marché de l'automédication à plus 9,3%. Si on regarde ce qui explique cette croissance du marché sur 2015 des produits d'automédication, on voit clairement que l'automédication a été rythmée par la pathologie. On le voit ici, donc vous avez en jaune la courbe des ventes 2015, en bleu celle de 2014, et on peut voir clairement que sur ce début d'année, sur le premier trimestre 2015, on a eu des ventes très importantes par rapport à 2014, avec plus 45 millions d'euros qui ont été générés sur ce premier trimestre sur l'année 2015. Également, la pathologie sur la fin de l'année, donc le dernier trimestre 2015, on voit que là, on est plutôt dans les mêmes eaux que ce qu'on avait sur 2014, avec un léger pic par contre sur octobre, plus 8 millions d'euros générés sur cette période du T4. Qu'est-ce qui explique l'évolution de ces ventes? C'est essentiellement lié et rythmé par la pathologie. En effet, ce qui va être important là, et ce qu'on va pouvoir vous montrer, c'est que l'augmentation des ventes est corrélée au fait que le conseil du pharmacien et le réseau officinal, finalement, jouent son rôle d'acteur de conseil lorsque la pathologie est présente. On est ici sur le premier trimestre 2015. On peut voir, si on regarde l'incidence de la gastro-entérite en haut à droite, qu'il y a eu peu d'incidence de cette pathologie sur 2015 versus 2014. Pas beaucoup de gastro sur les deux dernières années. Par contre, on va s'intéresser à la grippe entre 2014 et 2015. Et donc, du coup, grâce à ces petits cartogrammes qui nous permettent de suivre en temps réel l'incidence des pathologies, vous allez pouvoir voir, en regardant ici l'indice au niveau national qui représente le nombre de cas de grippe pour 100 000 habitants et le nombre de cas par jour, vous allez pouvoir voir le différentiel entre l'année 2014 à gauche et l'année 2015 à droite. Et vous allez voir notamment, lorsqu'on va arrivé sur le mois de février, une très grosse disparité. Oups, pardon. Je recommence. Vous allez voir une très grosse disparité dans les incidences liées à la grippe. Vous voyez le cartogramme qui se colore en rouge très fortement en 2015 versus 2014, et donc une forte pathologie grippale sur ce premier trimestre. On le voit également grâce à cette courbe ici. Et donc, qui explique ces fortes ventes sur le début de l'année et le rôle joué par le pharmacien sur la délivrance des produits d'automédication. On voit donc cette croissance portée sur le premier trimestre 2015 qui concerne notamment les segments des voies respiratoires et de l'antalgie générale, comprenant également les antipyrétiques. Si on regarde maintenant et si on s'intéresse à la fin de l'année, donc quatrième trimestre 2015 versus quatrième trimestre 2014, on va regarder de la même manière comment s'est comportée la grippe sur cette période-là. Et on voit que la grippe sur 2015 a été bien moins forte et bien moins présente. Elle l'était déjà pas beaucoup en 2014, mais elle a encore été moins en 2015. Et on voit que de nouveau, le réseau officinal, lorsque la pathologie n'est pas présente, conseille pas les produits lorsque ceci ne s'avère pas nécessaire. Donc vous allez le voir ici, en 2014, on a eu l'ouest de la France et également le nord, quelques cas de grippe, alors que sur 2015, on est resté quand même largement en deçà. Et on le voit ici, donc sur les différents segments, et notamment les deux principaux segments, voie respiratoire et antalgie, qu'on est plutôt flat sur l'antalgie générale et sur les voies respiratoires, même largement en dessous sur le mois de décembre par rapport à l'année passée. Le top 10 des laboratoires du marché de l'automédication sur 2015. Donc, premier laboratoire, Boiron, suivi de Sanofi. Troisième position pour BMS UPSA. Quatrième, Johnson & Johnson. Cinquième position pour Bayer Santé Familiale. Sixième position, on retrouve Reckitt. Septième, Cooper. Huitième, Pierre Fabre Santé. Neuvième position pour Boehringer Ingelheim. Et dixième position pour Novartis Santé Familiale. Si on regarde les principales marques donc, qui ont contribué à la croissance sur le segment de l'automédication sur 2015, on voit que sur le top 10 des marques que je vais vous présenter là, ça a généré plus 63,3 millions d'euros de croissance sur ce top 10, avec en première position, on retrouve Piasclédine et Condrosulf en troisième position, Oscilococcinum, deuxième position, Doliprane, TAPS, Fervex en quatrième et cinquième position et Topexil en sixième. Et par rapport à l'ensemble du marché du self-care présenté tout à l'heure, on retrouve en septième position Beroca, huitième position Lisopaine, plus 3,3 millions d'euros avec un élargissement de gamme pour Lisopaine, Ibuprofène de Mylan en neuvième position et enfin Efferalgan de BMS en dixième. Si on s'axe maintenant sur les dispositifs médicaux, on retrouve donc un segment en croissance à plus 7% pour les dispositifs médicaux qui ont généré en termes de croissance quasiment 51 millions d'euros avec bien évidemment comme principaux segments les soins à domicile consommables et la dermatologie qui restent des segments en croissance et les voies respiratoires et lentalgiques on retrouve toujours avec une croissance à deux chiffres plus 16,6% pour les voies respiratoires plus 10,1% pour l'antalgie. Au niveau des différentes marques et du top 10 des contributions à la croissance sur ce segment des dispositifs médicaux, on a un top 10 qui génère quasiment plus 38 millions d'euros de croissance avec un grand bravo à Hartmann avec sa gamme Confiance et sa nouvelle gamme. On retrouve également dans ce top 10, on le voit ici, trois marques qui sont positionnées dans l'hygiène nasale. Prorinel avec l'élargissement de sa gamme Eucalyptus, plus 4,2 millions d'euros. Marimer en sixième position avec l'élargissement de la gamme isotonique et rhinopharyngite. Humer d'Urgo avec l'élargissement de sa gamme nez très bouché. En troisième position, on retrouve le Cotopad de LR Medical. Quatrième position, l'Erapine. Cinquième position pour Opton et on voit également dans les dispositifs médicaux, huitième position pour XLS Médical et notamment un transfert des ventes sur l'Extrafort pour Omega Pharma. Dixième position dans l'EDM, on retrouve Toplexil, plus 1,3 million d'euros générés et notamment dû au lancement de Toplexil Phyto dans les dispositifs médicaux. Enfin, dernier segment sur les compléments alimentaires. Complément alimentaire, je vous le rappelle, à plus 9,6% de croissance, 59 millions d'euros de croissance sur cette année 2015, avec trois sous-segments phares, l'immunité-vitalité à plus 8,5%, qui a permis de générer quasiment 12 millions d'euros sur ce marché, le sommeil et détente à plus 18,2%, avec 15 millions d'euros générés sur ce sous-segment. Le confort digestif, enfin, quasiment à plus 20%, avec 15 millions d'euros générés sur le marché. On retrouve du coup Arco Pharma en première position sur les compléments alimentaires. Très belle performance de Pilège. Puis, troisième position pour Merck Médication Familiale. Quatrième pour Nutergia. Cinquième, Monobiol. Sixième, Urgo. 7e Nature Active Plante Médecine, 8e Santé Verte, 9e Omega Pharma et 10e position pour Bayer Santé Familiale. Ce qui est important, c'est de voir aussi le dynamisme fort des laboratoires qui sont au-dessus de la ligne verte avec un très grand bravo à Pilège et Nutergia qui restent les plus dynamiques sur ce segment des compléments alimentaires. On retrouve donc, de manière non étonnante, je dirais, dans le top 10 des contributions à la croissance sur 2015, le Lactibiane en première position, qui génère plus 4,7 millions d'euros avec la pénétration notamment de Lactibiane ATB. Deuxième position pour Nature Active, plus 3,8 millions d'euros avec le repositionnement de la gamme Elusane de Nature Active sous la marque Nature Active à proprement parler. Troisième position pour Aragan. Quatrième position pour Nova Nuit, qui a été lancée fin 2014. Cinquième position, Enobiol. On retrouve McDo de Copper en sixième position, plus 2,2 millions d'euros. Un beau lancement également. Beroca Boost de Bayer Santé Familiale, avec l'élargissement de la gamme en poudre stick. Plus 2,1 millions d'euros de croissance sur cette année 2015. Magnésium UPSA également, lancement fin 2014. 6 contrôles d'Arco avec le lancement du Flash, plus 2 millions d'euros de croissance. Et Activox en 10e position avec un repositionnement de statut sur cette marque. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont une première question à poser. Pas de questions ? Oui ? Je crois qu'il y a un micro quelque part. Voilà, le monsieur va arriver.
Parce que quand on voit que Fervex est en dessous des autres, ça a été manquant pendant tellement de temps
oui.
que la clientèle s'est portée sur d'autres produits.
Oui.
Donc c'est un petit peu contrarié la théorie par rapport à la conjoncture des laboratoires et leur façon de se positionner entre les obligations de marché annuel par lesquelles on est quand même très 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 sollicité. Et il y a une chose qui n'a pas été dite, c'est au niveau des compléments alimentaires, pour nous pharmaciens, quand on part avec une nouvelle gamme, on est souvent livré, ce qui est obligatoire de toute façon, à partir de la date de fabrication, il y a 18 mois avant la date de péremption. Donc on se retrouve avec des mises en place importantes où, grâce à la pub, il y a quelques références qui se vendent et au bout d'un an, on ne peut plus vendre les produits, mais on les garde en stock et on est encore coincé avec le même laboratoire pour pouvoir se les faire reprendre.
Oui, après c'est sûr que dans le... Au niveau pratique,
c'est vraiment théorique ce que je viens de voir.
Alors après, c'est corrélé les ventes.
Il y a beaucoup de paramètres qui sont à la base de toutes ces...
De ces croissances. Ouais. Après, forcément, les ventes telles qu'on les analyse et telles qu'on les... qu'on les recueille, je dirais, sont vraiment liés aux rotations des produits au sein de l'officine. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de paramètres conjoncturels, et de, comme la pathologie, et de paramètres, je dirais, logistiques auxquels vous êtes contraints. Mais il s'avère qu'effectivement, quand on regarde et quand on analyse les chiffres et les ventes du marché, aujourd'hui, ça reste les marques et les laboratoires qui génèrent le plus de rotations sur le marché et qui génèrent un volume de vente le plus important. Donc, c'était important, effectivement, de les positionner comme des marques et des laboratoires qui étaient leviers de croissance à l'officine. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, n'hésitez pas. En tout cas, on a un stand qui est sur la gauche, là-bas, au fond. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas. On sera ravis d'y répondre.